qui dit dans Osée 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, il viendra pour nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose la terre. » Est-ce que vous pouvez juste vous tourner vers votre voisin, lui dire bonjour et lui dire « Il est mon Dieu ». Ça fait du bien de voir la vie c'est aussi la joie, n'est-ce pas? On a chanté « Car il est mon Dieu », on a chanté ça. Et on veut ce matin chercher à connaître ce Dieu-là. Cherchons et connaissons. Cherchons à connaître notre Dieu. Alors mon thème de ce matin, le Dieu de révélation. J'avais pensé, bon déjà, vous savez des fois c'est plus ou moins facile de... Voilà, l'inspiration vient plus ou moins rapidement, on va dire, pour un message. Hier, j'ai pensé à l'enlèvement de l'Église, mais aujourd'hui, je suis content d'être avec vous, avec cette pensée que Dieu va se révéler. Et j'ai pensé à cette question, vous avez peut-être déjà entendu en parlant avec quelqu'un, vous avez peut-être même vous dit une fois, « Tu me prends pour qui ?»« Tu me prends pour qui ?» Vous avez déjà dit ça, n'est-ce pas ? Non ? Ah bon, quand même. Hein? Parce que parfois, on méconnaît un petit peu l'autre, et puis dans un conflit, dans une discussion un petit peu vive, bah, l'autre dit « Mais tu me prends pour qui, franchement ?» Hein? Ça vous arrive, quand même. Ah, ça me rassure, c'est pas que chez moi. Et vous savez, c'est des fois dans les conflits, quand il y a les tensions, que la vraie personnalité sort. Finalement, quelque chose qu'on percevait chez l'autre, en fait, est erroné. Et puis alors, dans la discussion, tu me prends pour qui ? Ah, c'est vrai, c'est peut-être pas comme ça que je te connaissais. Donc, on arrive à des phrases comme « je pensais que » ou « je croyais que tu étais comme ça » ou « que tu ferais ça ». Je te connaissais pas comme ça, même. Hein. Des fois, on va dire « je connaissais une partie de toi, mais là, je te reconnais plus ». Ou bien « je ne savais pas que ». Je savais pas que tu étais comme ça, je savais pas que tu faisais ça comme ça, etc. Hein. Tu semblais, tu paraissais. Parce que souvent, on méconnaît l'autre. Et c'est la même chose avec Dieu, les amis. On a besoin de connaître Dieu. Parce que si on ne le connaît pas, on arrive aussi des fois à ce genre de questionnement avec Dieu. Lorsqu'il y a une incompréhension, lorsqu'il y a une épreuve, on ne sait plus qui est Dieu. On croyait qu'il agissait d'une manière, puis on pensait qu'il allait se manifester comme ça. Finalement, ça ne se passe pas comme on croit. Parce que, on va le voir ensemble, on méconnaît Dieu parfois. On a besoin de vraiment sa révélation. Et c'est une bonne nouvelle. Dieu est un Dieu de révélation. Il nous aime tellement qu'il se révèle. Hein, il ouvre nos yeux. Le voile est ouvert. On peut aller proche de ce trône-là. Et le lieu du trône, c'est le lieu de la révélation. C'est là où sa présence est là. On a un face-à-face avec Dieu. On reçoit vraiment qui est Dieu. Alors, vous connaissez ce verset qui dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme doit nous être révélé. » On a besoin de révélation parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Dieu est tellement grand. Alors, comment Dieu s'est-il révélé ? Vous le savez quand même pas mal, hein, je pense, c'est des choses qu'on enseigne. Il y a la révélation générale de Dieu. On parle de révélation générale, par exemple, pour la création. Hein, Dieu se révèle dans la création. Tout ce qu'il a fait pour nous est bon. Hein, d'ailleurs, quand il a créé la terre, chaque fois, vous voyez, à la fin des jours, ce que Dieu a fait est bon. Il l'a chaque fois déclaré bon. Quand il vous a créé, quand il a créé l'homme, il a dit, c'était quelque chose de très bon. Alléluia. Donc, il se révèle dans la création. Hein, on le voit, les beaux paysages. Vous êtes peut-être allé en vacances. Bon, bien sûr, il n'y a pas de pays plus beau vraiment que la Suisse. Mais... Passons. Vous pouvez voyager beaucoup. Non, mais c'est vrai, chaque paysage est magnifique. Hein. Il y a chaque fois quelque part quelque chose qui est beau. Et ça, c'est une des manières dont Dieu se révèle. Il se révèle aussi, bien sûr, par les Écritures, hein, sa parole. Il y a une révélation directe aussi qui est simplement parce que Dieu parle. Alléluia, Dieu parle. Alors, il parle à travers sa parole, mais il a parlé directement à des hommes, pas tous. Hein, des fois, on pense que tous ont vraiment perçu de leur oreille la voix de Dieu, ce n'est pas toujours vrai, parce que Dieu parle en songe, parce que Dieu parle en vision, mais il a vraiment parlé à Adam, il a parlé à Caïn, à Noé, à Abraham, Isaac, Jacob, et bien sûr à Moïse tout spécialement. Donc Dieu se révèle, et il se révèle encore à nous aujourd'hui, au travers de Jésus, bien entendu. Alors je vous propose trois points ce matin, on va regarder à la révélation de Dieu dans le Dieu de l'existence, le Dieu de vie et le Dieu proche. Et mon désir, ce n'est pas de vous faire juste une belle théorie. Mon désir ce matin, c'est qu'on puisse vraiment repartir en comprenant, avec à la limite une réponse à nos pourquoi. En connaissant Dieu, on répond à nos pourquoi des fois. Justement dans ces moments de solitude, dans ces moments de détresse, on dit pourquoi. Mais quand on connaît Dieu, on a une réponse. Et c'est vraiment mon désir ce matin. Alors j'aimerais commencer la diapo suivante avec ce verset dans Jean chapitre 8, verset 58, qui dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. » Jésus ici révèle sa divinité aux Juifs, à des gens qui le questionnaient, qui parlaient de prophètes, d'Abraham. Il dit « mais toi Jésus, est-ce que vraiment tu es plus grand qu'Abraham ? Tu te prends vraiment pour quelqu'un de plus grand qu'Abraham ?» Puis il dit, avec humilité, il dit à quelque part, non seulement, il ne dit pas « je suis plus grand », il ne dit pas comme ça, hein, parce que Jésus sait bien répondre. Hein. Et il ne dit pas « non, je suis plus grand », non, il dit simplement que alors même qu'il était encore, qu'Abraham n'était pas, lui était déjà. Moi, je suis. Avant qu'Abraham naisse, moi, je suis. Et il dit même qu'Abraham s'est réjoui du jour où Jésus a été, si on veut, envoyé, du jour où Jésus est entré dans sa mission. Abraham s'est réjoui. Alors forcément que ça fait une petite réaction, les Juifs commencent à le lapider. Mais ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que c'est la même que Dieu va faire à Moïse sur le mont Horeb. Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment. Dieu parle à Moïse dans le buisson ardent, et puis Dieu désire envoyer Moïse pour libérer son peuple, vous connaissez cette histoire. Et puis Moïse, il est un peu comme nous, hein, il n'est pas trop sûr d'être la bonne personne. Quand Jésus nous parle, quand Jésus veut nous envoyer, que la mission semble un peu délicate, tu es sûr ? Est-ce que vraiment c'est moi que tu veux ? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop bien parler, etc. Et puis après, Moïse va poser cette question à Dieu dans Exode 3, verset 13, la diapo suivante. « Si je vais vers les fils d'Israël et que je leur dise « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? » Moïse a une révélation incroyable de Dieu. Dieu se manifeste dans ce buisson, c'est un moment incroyable. Vous savez, oh mince, j'ai dit incroyable. Je dis toujours incroyable. Il y a une sœur de l'église qui m'a dit qu'il ne faudrait pas dire incroyable, mais vous comprenez, c'est une expression. Alors, je crois pleinement à la révélation de Dieu. Donc, c'est une révélation folle de Dieu à travers ce buisson. Et Moïse a besoin lui-même de cette assurance, de savoir qui est Dieu. Qui est Dieu ? Il a soif de cette révélation. Et puis, il a tellement soif que Moïse va devenir, hein, vous savez, dans Exode 33, verset 11, il est dit que Dieu a parlé à Moïse face à face, comme à un ami. Waouh ! Hein ? Première chose, Moïse a soif de cette révélation de Dieu. Est-ce que nous aussi, on a soif de cette révélation ? Est-ce que nous aussi, on ose questionner Dieu, mais qui es-tu ce matin ? Qui es-tu ? J'ai besoin de te connaître davantage. Et alors que je vais le connaître, il va se révéler. Alors que je vais chercher à le connaître, il va me parler. Et puis je serai dans son intimité. Je serai cet ami proche, comme Moïse, à qui Dieu a parlé. Alors Moïse pose cette question. Et puis, bien sûr, il faut comprendre le contexte. Pourquoi Moïse pose cette question ? Le peuple d'Israël, ça fait 4 siècles qu'il est dans l'esclavage. 4 siècles qu'il est au milieu d'un peuple idolâtre. Et on ne sait plus trop où ils sont. Alors que Dieu commence à parler à Moïse en disant que je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que le peuple au milieu de l'Égypte ne sait plus vraiment quel est ce Dieu. Il y a de nombreux dieux, vous savez, l'Égypte c'était vraiment une nation idolâtre. Hein, chaque dieu avait un nom, chaque petit dieu avait un attribut, etc. Et on pense même que peut-être le peuple d'Israël n'avait plus réellement un lieu de culte, n'avait plus vraiment un culte hebdomadaire, ils avaient perdu un petit peu tout ça, c'était un mélange de beaucoup de choses. Alors, pour aller parler au peuple, il avait besoin de savoir, mais qui est Dieu? Qui es-tu? Et tout comme Jésus a répondu à ces Juifs, Dieu va dire au verset 14, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » Et ça, c'est fou. C'est génial, cette révélation-là. Elle nous dépasse un petit peu, c'est pour ça que j'y viens. Mais juste cette parole-là de Dieu devait suffire à convaincre un peuple d'écouter Moïse. Parce que il est, je suis. Face à tous ces dieux qui faisaient peut-être croire quelque chose, hein, on pensait que c'était le dieu du soleil, le dieu de je ne sais pas quoi, mais il dit, non, moi je suis de toute existence, je suis le dieu de l'existence. Et ça, c'est fort. Le peuple devait comprendre qui était Dieu avec ses paroles. Ça veut dire que en prononçant ça, Dieu disait, je suis capable de vous libérer. Je suis capable. Je suis le Tout-Puissant. Je suis. Ne vous inquiétez pas, je suis. C'est moi, le seul vrai Dieu, le Dieu au-dessus de tout. Alors dans l'hébreu, c'est un peu compliqué ce passage-là, parce que vous avez peut-être différentes traductions de votre Bible. On a par exemple, je serai qui je serai, ou je suis celui qui sera. Bien, je suis celui qui est. Parce que vous savez, dans l'hébreu, en fait, on ne peut pas traduire le présent. Le présent n'existe pas. C'est quelque chose qui est inachevé. Alors, il n'est pas « je suis » puis « je suis plus ». Il est « je suis » mais « je serai ». Vous comprenez ? C'est pour ça que l'Apocalypse nous dit « je suis, j'étais, je suis et je serai ». Toujours, hein ? Vous connaissez ça. Il était, il est et il sera. Alors, c'est cette notion-là. On parle du tétragramme divin, vous avez déjà entendu, Yahvé ou Jéhovah quand on prononce. Alors, le nom de Dieu est tellement fort, la puissance dans ce nom est tellement fort, et peut-être on a perdu cette notion-là aussi, que les Hébreux ne le prononçaient pas. Les Hébreux, les Juifs, ne disaient pas le nom de Dieu par peur de le profaner. Il était tellement saint qu'il ne voulait pas dire son nom. Alors, il disait quoi ? Il disait Adonai, Seigneur. Et puis c'est comme ça, dans nos Bibles, vous voyez que c'est écrit « Éternel » ou « Seigneur ». Ce n'est pas écrit forcément « Yahweh » ou « Jéhovah ». Et même les copistes, hein, quand ils recopiaient le texte de la Bible, quand ils devaient écrire ce nom, ils changeaient de plume. Tellement le nom était saint. Hein, j'ai même entendu dire que certains mettaient des gants. Alors pour vous dire, peut-être on a un petit peu perdu cette notion-là du Dieu saint, du Dieu qui est grand. Mais voilà, ce n'est pas seulement là que je voulais venir. Alors, comment comprendre cette révélation à la diapo suivante ? Donc, Dieu existe par nature. Il ne tient son existence d'aucun autre, c'est ça que ça veut dire. Il est l'existence même, c'est lui qui est. Tout ce qui est n'existe que par son acte et sa volonté. Ça, c'est important de le comprendre. Hein, parfois, on a l'impression qu'on a une influence sur les choses, ou que finalement, Dieu fait ce qu'il veut, il touche à rien, puis d'un coup, non. Chaque chose qui est, eh ben, c'est Dieu, c'est sa volonté. Il est partout. Il est, c'est tout. Point final. Dieu est. Alors ça nous dépasse vraiment. C'est comme s'il a le monopole du verbe être un petit peu. Hein? Voilà, si quelque chose est, c'est parce qu'il y a Dieu à quelque part. Alors je ne vous encourage pas forcément à répondre à votre prochain rendez-vous comme Dieu, hein? Enchanté, je suis. Vous allez être un petit peu étonné de la réaction. Mais c'est sûr que pour nous, il manque quelque chose. Hein. On ne peut pas dire je suis. Je suis quoi ? Je suis qui ? Hein, on va toujours nous demander. D'ailleurs, c'est tellement difficile de se définir aujourd'hui. Hein, on nous définit comment ? On nous définit par notre travail, souvent. Hein. Je suis banquier. Puis bon, ça, peut-être ça nous aide un petit peu dans notre, dans notre estime. Ou peu importe, mais on nous définit souvent par ce qu'on fait, puis c'est les premières questions. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin d'être défini par une fonction, par quelque chose, parce qu'il est. Je suis. Qu'est-ce que Dieu va répondre à Job? Vous connaissez Job 38. Qu'est-ce que Dieu va répondre à Job alors que Job vivait, vous savez, la souffrance, on en parle souvent, hein, on prend cet exemple, des fois à tort et à raison, mais c'est clair, Job a souffert d'une manière toute spéciale. Et puis il se plaint un petit peu, évidemment, il a 2-3 complaintes. Et puis voilà ce que Dieu lui répond au verset 38, presque à la fin du livre. Hein, dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Je vous encourage à lire tout le chapitre, mais parfois, on a besoin de ça. Dans la souffrance, dans l'adversité, pensons à qui est Dieu. Je suis. Qui est Dieu ? La réponse de Dieu, quand on ne le connaît pas, c'est ça. Je suis. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Toi qui te plains, toi qui souffres, est-ce que tu me connais vraiment ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Je suis. Je suis. Ne t'inquiète pas. Je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui sera. Je suis. Dieu est la source de toutes choses et Jésus nous révèle aussi donc cette réalité de lui-même. Il est pour nous le « je suis » incarné qui vient révéler le Père, qui vient révéler le cœur du Père, celui qui veut nous sauver. Bien sûr, Dieu ne se contente pas de dire « je suis ». Il va libérer son peuple. Amen. Hein? Mais c'est juste pour vous aider à comprendre qui est Dieu. Il est ce « je suis ». Mais il ne nous laisse pas comme ça sans réponse. Ça, c'est une réponse. « Je suis ». Alors Jésus se révèle aussi le Dieu de la vie. C'est mon deuxième point. J'aimerais regarder un texte avec vous dans l'évangile de Jean. Comme on l'a vu déjà dans le passage précédent, l'évangile de Jean a cette particularité de révéler qui est Dieu au travers de Jésus. Il révèle l'identité de Jésus et on découvre bien sûr, chapitre après chapitre, cette divinité. Hein, Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu. Alors vous connaissez peut-être à la diapo suivante, il y a 7 déclarations de Jésus dans l'évangile de Jean seulement avec « je suis ». Souvent, peut-être vous avez déjà entendu prêcher cela. Cette déclaration, « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le vrai cep. » Amen. Ça, c'est des révélations de Jésus. Alors, on va prendre ensemble Jésus qui révèle finalement qu'il est la résurrection et la vie. Il est la vie. On va prendre ce texte dans Jean 11. C'est affiché encore à l'écran. Jean 11, verset 1. C'est l'épisode de l'histoire de Lazare que vous connaissez. Mais Dieu m'a reparlé vraiment avec ce texte. C'est ça qui est aussi merveilleux avec la parole. Hein? On n'a jamais fini de comprendre quelque chose. Alors je commence la lecture. On va lire déjà les 6 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle va mener à la vie. » Il faut que je me mette là parce que j'ai pas ouvert mon texte, mais elle l'a pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La suite, je vais ouvrir, ce sera plus facile, excusez-moi. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. On prend maintenant depuis le verset 17. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui tandis que Marie restait assise à la maison. Vous vous souvenez, Marthe et Marie, hein, Marthe qui est un peu plus active, Marie qui restait au pied de Jésus, hein, c'est les mêmes. Alors Marthe court à l'encontre de Jésus, et puis elle lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Amen. Alors dans ce texte, Jésus est donc en Pérée. C'est environ à 10 heures de marche. Puis il reçoit cette information, Lazare, qu'il connaissait, qu'il aimait, un ami proche. Lazare est malade. Alors prévenir Jésus dans ce cas, c'était un peu comme aujourd'hui, lorsqu'on prie, puis qu'on dit à Dieu, « Mais Seigneur, guéris mon frère !» C'est un petit peu ça. Jésus était là. Alors on envoie dire à Jésus, « Mais mon frère est malade !» Puis dans sa souveraineté, Jésus, il sait ce qu'il fait, bien sûr, il met du temps à revenir. Et pour Marie et Marthe, la réponse tarde. La réponse tarde. Jésus sait déjà que cette situation, comme on l'a lu au verset 4, va glorifier Dieu. Il sait déjà ça. Et que cette situation va le révéler. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, ou n'est point à la mort, n'appartient pas à la mort. Comme on l'a pu le proclamer avec ce beau témoignage de Joy. Cela ne va pas mener à la mort, Jésus le savait, et ça va servir à glorifier Dieu. Mais imaginez quand même ce que devaient penser et endurer Marthe et Marie dans cette situation. Jésus ne répond pas, Jésus n'est pas là, il n'est pas venu à mon secours. Le temps est long, le temps est long. Ça vous arrive parfois de prier et de ne pas avoir de réponse, n'est-ce pas? Des fois c'est long. Et même dans le laps de temps, Lazare meurt, Lazare décède. Quel coup dur pour Marthe et Marie qui attendaient cette action miraculeuse, qui attendaient que Jésus soit là, que Jésus guérisse leur frère. Puis Jésus arrive seulement 4 jours plus tard, forcément. Hein. Il est resté 2 jours, il y avait le temps du chemin, même le messager a mis aussi du temps pour arriver. Donc dans ce temps, Lazare est mort. Jésus revient, il est à proximité de la ville, puis Marthe va le rencontrer. Puis peut-être avec un mélange de tristesse, un petit peu d'incompréhension, peut-être de colère, mais en même temps une foi en Jésus qui pouvait guérir, elle dit « Si tu avais été ici, mon frère, ne serais pas mort. » Évidemment, hein, celui qui guérit, celui qui fait des miracles, il aurait juste fallu que tu sois là, Jésus. Jésus, bien sûr, la rassure, puis dit « Mais ton frère, il va se relever. » Puis là, elle ne comprend pas trop. Hein, c'est un petit peu trop pour elle. Forcément, même qu'elle est pleine de foi, elle dit là quand même, ça fait 4 jours. Elle ne comprend pas. Puis Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus n'est pas seulement celui qui guérit. Jésus n'est pas seulement celui qui peut faire quelque chose quand il est à côté de nous. Jésus est la résurrection et la vie. Et parfois, nous aussi, on dissocie un petit peu notre foi en Jésus de qui il est vraiment. On prie pour quelque chose au lieu de prier quelqu'un. Vous comprenez? On aimerait qu'il amène la vie ou qu'il amène la résurrection. Mais il est la vie. Il est la résurrection. On ne peut pas vraiment définir, par exemple, la résurrection. C'est impossible de définir la résurrection. La résurrection, c'est Jésus. Il est. Il est la résurrection, la vie. Ce n'est pas une substance qu'on va chercher. Ce n'est pas si Jésus l'a décidé ou Dieu dans sa grande bonté. Non, il l'est. Il l'incarne, il l'est. Lorsqu'on accueille Jésus, lorsque vous avez accueilli Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous accueillez la vie. Vous accueillez la résurrection et la vie. Alors la réalité de Dieu, elle est bien plus grande que nos circonstances. Même dans des circonstances difficiles, il reste celui qui est. Il reste celui qui est la vie, qui est la résurrection. Et c'est ça qui est génial. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si vous avez mis votre foi en moi, alors vous avez la vie. Même si vous mourrez, vous avez la vie. Vous avez la vie. Et si vous êtes encore vivant aujourd'hui, vous mettez votre foi en moi, vous ne mourrez pas. Ça, c'est la réalité de Dieu. C'est la réalité. Quelle que soit la réponse que vous attendez ce matin, alors n'oubliez pas que tout est en Dieu. Si on met notre foi en Jésus, on a cette vie. Est-ce que nous considérons comme Marthe ici, est-ce que nous considérons comme des situations perdues, mortes? Dieu ne les voit pas comme des situations comme ça, il ne voit pas des situations mortes. Pourquoi? C'est contraire à lui-même. Il ne peut pas voir quelque chose de mort. Il est vie. Il est la vie. Il est la résurrection. Chaque situation pour lui, ce n'est pas la mort, ce n'est pas perdu. Parce que même si c'est mort ici aujourd'hui, lui demeure. Lui demeure. Il est. Alors chaque fois qu'on confie à Dieu quelque chose, ça va trouver la vie à quelque part. Ce n'est pas toujours comme on pense, ce n'est pas toujours sur la terre. Mais il ne faut pas chercher ailleurs qu'en Dieu. Ne cherchons pas ailleurs. N'essayons pas d'appliquer, rechercher des concepts, des manières de faire. Peut-être est-ce que j'ai bien demandé, est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que ma prière était juste? Je pense qu'on peut s'adresser à Dieu de certaines manières et puis que peut-être il y a une manière qui montre une plus grande révérence qu'une autre. Mais Dieu est Dieu. Dieu est. Ce n'est pas en appliquant une manière de prier que Dieu va agir. Il agit parce qu'il est vie. Alors avant de terminer, j'arrive à mon dernier point. Jésus révèle encore le cœur de Père par les émotions qu'il va laisser transparaître dans cette situation. On reste dans la même histoire. Parce que Dieu est un Dieu proche. C'est le point 3. Dieu est un Dieu proche. Ça, c'est merveilleux. C'est le Dieu de la révélation parce que c'est un Dieu proche. Il ne veut pas rester celui tout en haut. Il est « Je suis ». Mais il est aussi ce Jésus, il nous envoie son esprit pour qu'il soit toujours proche de nous. Alors cette fois, c'est Marie. Marie qui rencontre Jésus. Marthe rentre, elle appelle sa sœur, dit « Jésus est là, Jésus est là ». Puis Marie va, et puis elle va poser la même question que sa sœur. Elle va dire « Mais Jésus, si tu avais été là, mon frère serait guéri, mon frère serait en vie ». Et puis il est dit au verset 33, en la voyant pleurer, c'est la diapo suivante, en la voyant pleurer, elles et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Verset 36, Jésus pleura. Jésus pleure. C'est tellement important de comprendre ça. Jésus pleure. Le Dieu qui nous dépasse, le Dieu qui est, le Dieu qui est par-dessus tout, celui que notre petit intellect, notre être fini, n'arrive pas à définir, est un Dieu proche, est un Dieu qui pleure. Jésus est forcément triste de voir l'œuvre de l'ennemi. Parce que Jésus est vie, et puis la souffrance, la tristesse, c'est l'œuvre de l'ennemi, n'est-ce pas? Alors Jésus est triste de cela. Souvent dans nos situations de deuil, vous avez tous vécu ça, c'est difficile de parler à un ami qui a perdu quelqu'un. On ne trouve pas les mots. On aimerait exprimer quelque chose, on aimerait lui dire notre soutien, mais on n'a pas les mots. Et puis on a peur de dire quelque chose qui serait faux. Parfois on préfère se taire, c'est peut-être sage. Mais Romains 12, 15 nous dit, diapo suivante, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est ce que Dieu fait aussi. Et souvent, ça m'a touché de penser à ça. Parfois, même nous, quand on est un peu pasteur, des gens viennent vers nous, vous venez vers nous, et puis vous avez besoin, vous aimeriez une parole. Vous aimeriez une parole qui réconforte. Mais des fois, on n'a pas, parce qu'on pleure avec vous. On pleure avec ceux qui pleurent. On ne peut pas toujours attendre autre chose, parce que Jésus lui-même pleure. Et ça exprime beaucoup. Ça exprime énormément. Alors que Jésus pleure, il vit la peine avec toi. Il vit ta peine. Et moi, ça me touche. Pensez que quand je pleure, Dieu pleure avec moi. Il est sensible. Ce qui me fait pleurer, le fait aussi pleurer. Vous vous rendez compte de ça? Il n'est pas dans son trône là, à vous regarder, puis il fait « Ah, dommage. » Non, c'est pas un Dieu comme ça. Hein? C'est pas lui qui va dire si j'avais été là. Non, il était là et il pleure. Il vit notre peine. Alors, il faut comprendre que parfois on va dire, oui, mais Dieu, tu aurais pu agir. Mais notre monde est livré au péché. De la même manière que nous sommes soumis à cette gravité terrestre, alléluia, j'ai les pieds sur terre encore un peu, eh bien, on est soumis aussi à la souffrance, à la maladie, à la mort, aux pleurs. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est comme ça. Dieu le sait. Mais Dieu est déjà intervenu. Hein, il est celui qui est, mais il est celui qui sera. Il est déjà intervenu. Celui qui met sa foi en Christ ne mourra pas. Et puis, dans ce verset de Matthieu 5, 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ça, c'est l'espérance qu'on a. Amen, vous êtes contents? Amen. Hein, parfois, on dit, mais Dieu, pourquoi t'agis pas? Ne t'inquiète pas, je suis celui qui suis. Je suis la vie, et la vie va demeurer jusqu'au bout. Tu peux avoir cette espérance en moi. Je suis proche de ta souffrance, je vois ta souffrance. Le mal fait son œuvre, mais moi, je vais triompher. Moi, j'ai la victoire. Je suis la résurrection, la vie. C'est ce que Dieu veut nous dire, je conclue maintenant, aujourd'hui, dans ce temps que nous vivons. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Je suis. Et ce matin, après on va prendre la scène ensemble, je sais que beaucoup attendent des réponses de Dieu. Beaucoup parfois s'énervent, presque. On vole des fois à Dieu. Les psaumes, je sais, nous montrent qu'on peut exprimer nos sentiments. Ça, c'est merveilleux aussi. On a Dieu qui nous comprend. Mais ce matin, il aimerait dire « je suis ». Il aimerait vraiment dire « je suis ». Ne crains pas, je suis. Je suis la vie. Il n'était pas en retard pour Lazare. Même après 4 jours, ce n'était pas impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Il maîtrise ce qu'il y a demain. Ça, c'est sa réponse. J'étais là, je suis là, je serai encore là, je maîtrise demain. Même si ta situation semble désespérée aujourd'hui, ce n'est pas grave pour Dieu. Parce que demain, il est là. Parce qu'il est. Alors, je vous invite à baisser vos têtes, on va prier ensemble. Tous ceux qui ont des situations comme ça où vous criez à Dieu, vous ne comprenez pas, puis vous dites pourquoi. Seigneur mon Dieu, on te bénit pour ta révélation. On a célébré ton nom dans la louange tout à l'heure et on veut encore le faire. On a dit aussi dans la louange, je choisis de dire béni soit ton nom. Encore des paroles de Job dans la souffrance, je choisis de dire « Béni soit ton nom ». Et c'est ce qu'on veut faire parce que ton nom nous secourt, ton nom sauve, ton nom est la vie. Seigneur, tu es celui qui est de toute existence. Et ça, c'est notre meilleure assurance, mon Dieu. Merci. Merci pour cette réalité qui nous dépasse peut-être, mais merci d'être ce Dieu-là. Si loin, mais si proche, celui qui est la vie alors que même la mort arrive dans cette terre, toi tu es la vie. Et on a la vie en nous. Gloire à toi, gloire à toi. Seigneur, je proclame pour toutes les personnes qui sont dans l'attente, comme Marthe et Marie ont été dans l'attente de te voir agir, je déclare que tu puisses les rassurer, tu les rassures maintenant en leur disant « je suis ». Je maîtrise toute chose. C'est moi la vie. C'est moi la résurrection et la vie. N'attends pas quelque chose d'ailleurs. Attends-toi à moi. Je suis. Et Seigneur, pour ceux qui sont dans la souffrance ce matin, merci parce que tu es ce Dieu proche qui pleure, qui est sensible à nous. Merci pour cette proximité, cette humanité, Seigneur. Tu vas pleurer avec nous. Moi aussi, je suis triste, mais je sais que je triompherai. J'ai triomphé déjà de la mort. Je suis la vie, encore une fois, je suis la vie. Et Seigneur, on se réjouit, on est dans la réjouissance, Seigneur, de ce jour où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Ça, c'est notre espérance. Tu reviens et on sera consolé. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Apprends-nous à te célébrer, à te louer au travers de nos circonstances pour qui tu es vraiment, ce Dieu qui est. Seigneur, on n'a pas la prétention de savoir qui tu es vraiment. On n'était pas là quand tu fondais la terre. Mais Seigneur, tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu es Dieu. Alors béni sois-tu, Seigneur, révèle-toi encore cette semaine dans les situations difficiles comme celui qui est la vie, comme celui qui est proche, comme celui qui est Dieu. Seigneur, je bénis, Seigneur, mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen.